Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Et le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de sa collection et le fonctionnement de ses coulisses. Je suis François Genesini, bienvenue dans Chefs-d'œuvre en réserve, une série inédite conçue avec l'Acmé Productions. En 10 ans d'existence, la silhouette du bâtiment du Mucem de Marseille, conçu par l'architecte Rudy Ricciotti, nous est devenue totalement familière. Elle occupe désormais une place à part dans la cité phocéenne, mais aussi dans l'imaginaire des Français. Pour autant, a-t-on vraiment idée de l'incroyable richesse de la collection du musée ? Celle-ci, héritière du musée d'ethnographie du Trocadéro et du musée national des arts et traditions populaires, compte en effet 1 million d'objets. Et elle est en constante expansion avec l'élargissement au travers d'enquêtes collectes de son fonds ethnographique vers l'Europe et vers la Méditerranée. Les immenses réserves extérieures du musée sont à l'image de la profusion et de la diversité de cette collection. En quelque sorte, et sans qu'on puisse tous les nommer, un long inventaire à la Prévert d'objets usuels insolites. Outils de l'agriculture, manèges forains, œuvres artisanales, skateboards et que sais-je encore. Chaque objet est un récit en lui-même. Il raconte l'histoire de son fabricant, de son propriétaire, mais aussi, au travers de son usage, des époques qu'il a traversées. Il est la trace vivante d'une civilisation passée ou de celle dans laquelle nous sommes actuellement immergés. Nous vous invitons à découvrir ce monde enchanté, guidé par Hervé Chadeillac, chef d'équipe installation, Aude Fanlot du département recherche et enseignement, et Lucille Borde, une des autrices des cartels de la nouvelle exposition semi-permanente présentée dans le musée et intitulée « Populaire avec un point d'interrogation ». Allez, venez avec moi, on plonge dans les grands fonds des réserves. Nous allons rejoindre Hervé Chadeillac, qui est l'homme qui connaît les réserves du musée comme sa poche. Bonjour Hervé, comment allez-vous ?
Bienvenue. Merci. Dans mes réserves, dans mon lieu de travail, dans mon jardin extraordinaire.
Votre royaume, hein, on peut le dire comme
ouais,
ça.
Oui, on peut dire ça comme ça en toute simplicité.
Voilà, donc alors, on va rentrer, je crois, dans les grandes réserves.
Tout à fait.
C'est
donc
quoi
les grandes réserves ? Donc c'est des gros volumes,
oui.
Répertoriés sur R1, R2, R3, puisque toutes nos réserves ont un numéro oui. et un nom.
Oui.
Donc la R1, agriculture, R2, industrie et R3, art forain.
Bon, alors allons-y.
Allons-y.
Allons-y. Oula.
Bienvenue dans mon monde.
C'est bien la caverne d'Ali Baba dont je rêvais.
Là, on se dirige vers l'agriculture.
D'accord.
Tout ce qui est arrière, tous les instruments.
Alors, décrivez-nous déjà ce panneau, parce que c'est tellement spectaculaire.
Alors là, en fin de compte, on est, comme dans toute réserve et comme toute installation, on est en recherche d'optimisation des espaces. Donc tout ce qu'on peut gagner comme espace, comme système de rangement, c'est modulable, c'est réfléchi pour présenter quelque chose à la conservation, puisque la politique du Mucem, c'est quand même la visibilité de ces objets.
Donc là, on voit des fourches, des râteaux.
Des râteaux, des pelles.
Des pelles. Et si on progresse, j'ai l'impression qu'on va vers...
Là, après, c'est plus
qu'est-ce que c'est,
tout ce qui est machine. Là, vous avez des charrettes de parade siciliennes.
Oui.
Vous avez, alors là, marseillais, le four à pétrin à navette.
Ah oui, à navette.
Oui, ça, bien sûr.
Et quand on voit la diversité des objets, ne serait-ce que dans la section agriculture, la question qui vient tout de suite, c'est mais comment ces objets rentrent dans la collection ?
Alors là, c'est forcément un chercheur, un conservateur qui, pour agrandir ses collections, cherche, enquête.
Oui.
Et donc, c'est toujours des enquêtes collectes pour récupérer les objets et agrandir les collections.
Alors, je crois que vous êtes peut-être depuis le début, hein ?
Pratiquement.
Bon.
Pratiquement.
Donc, vous avez dans votre tête pas 1 million d'objets, mais enfin, vous les connaissez quand même bien.
Alors, il y a quand même beaucoup de réserves. C'est vrai qu'au début, il fallait que je connaisse ces collections. L'emménagement des collections, ça représente 160 semi-remorques, pratiquement 2 ans d'installation avec 15 installateurs qui ont déballé les collections parmi...
Ils sont venus d'où, alors, ces collections ?
Du MNATP de Paris, du musée parisien, puisque le MUSEM, c'est un ancien musée parisien qui était dans le 16e arrondissement.
Qui était quoi, le musée des traditions populaires ?
Oui, tout à fait, à côté du jardin d'acclimatation. Maintenant, oui. Il y a la fondation Louis Vuitton qui est à côté. Le bâtiment d'architecte de Dubuisson a été démantelé, ils ont gardé l'ossature. Après, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, mais c'est parti de là. Et donc, musée de l'Homme, MNATP et MUSEM, puisqu'on s'est élargi sur le bassin méditerranéen.
Alors, en quelque sorte, chaque objet a un peu une histoire.
Tout à fait.
Alors, je crois que vous vouliez me parler d'un objet très, très insolite qui vous a frappé quand vous avez pénétré dans les réserves.
D'un tout petit objet. Oui. Parce qu'en fin de compte, ici, il y a toute taille. Ça peut être franchement du minuscule au triple XL.
Le plus petit, c'est quoi, c'est un confetti?
Je pense que, il me semble qu'on a peut-être des confettis ou des affiches ou même des sacs de course. Oui. Mais il y a aussi quand même, parce que c'est un peu drôle, comme l'objet a une histoire, c'est les noyaux de cerise.
Qu'est-ce que c'est les noyaux de cerise ?
En fin de compte, dans les collections, on a nos noyaux de cerise. Donc ça peut prêter à sourire le pourquoi des noyaux de cerise. Donc c'est 3 pépins de noyaux de cerise qui sont conservés dans une petite fiole. Et donc c'est bien beau de voir cet objet un peu hétéroclite. Et il faut quand même connaître un peu l'historique et les provenances, en fin de compte. C'est quelqu'un qui a cherché sur les us et coutumes de la France profonde et qui a trouvé ce petit village, je ne vais pas trop citer peut-être la région pour ne pas choquer, mais qui vit un peu en autarcie. Ouais. Et donc, à un moment donné, ça coince un petit peu entre monsieur et mesdames. Et l'histoire veut que c'est le monsieur ou la dame qui sort du village à la croisée des chemins, jette une poignée de noyaux de cerises et selon que l'on ça tombe, en chantant une petite chansonnette, ça donnera la venue où il ira chercher la belle ou le beau parmi... Donc, je trouve c'est rigolo comme histoire.
C'est la chanson,
non ? Je vais pas chanter parce qu'à Marseille, il fait toujours beau, donc après, il risque de pleuvoir.
Vous ne verrez pas, vous, en lumière, dans ces couloirs, il y a des couloirs, regardez la caverne.
Les 3 premières semaines, c'est compliqué.
Ah oui. Et après, on arrive à se repérer,
après c'est léger.
Après, c'est léger de faire des choses. Où est-ce que nous arrivons, là ?
Ah, dans la partie Arforan.
Oui. Alors, on voit des têtes énormes. Presque des caricatures, c'est quoi ça ?
Des hommes politiques.
Oui,
c'est
politique.
Les boules-boules, donc on met une pièce et puis avec une boule en mousse, on doit...
On doit taper Alors là, on a Bernard Tapie, on a Alain Juppé, on a Helmut Kohl, on a Philippe Seguin, qui sont des espèces d'énormes caricatures de têtes. Alors il y a un immense personnage là, qui occupe la moitié
derrière,
de la pièce.
En fin de compte, c'est par rapport à l'exposition Carnaval. Donc, musée de Binche, qui nous prête des chars de carnaval. Fin d'exposition... Binche récupère ses chars, mais le MUSEM propose une acquisition pour ce char, parce qu'en fin de compte, il a quand même une histoire, comme tout objet.
Alors,
donc ce sont les dieux de l'Olympe qui se prosternent devant le banquier par rapport au passage à l'euro.
Ah bon ?
Oui, devant, vous verrez, il y a le banquier qui est assis, qui est un personnage opulent, et il y a le sigle de l'euro.
D'accord.
Enfin,
pourquoi il a une drôle de tête avec des yeux un peu globuleux.
Qu'en fin de compte, on parlait d'optimisation des espaces. Notre très cher Cyclope, comme vous voyez, il n'est pas rentré comme ça dans la réserve. Il était tronçonné. Parce qu'à l'origine, là, même si on a 6 mètres de hauteur de plafond, le chat fait 9 mètres de haut.
D'accord.
Donc lui, il était en pièces détachées. Et au sol, j'avais la tête, j'avais les bras, j'avais le torse, beaucoup de pièces. Et ça me prenait trop de place. Et donc, en fin de compte, la direction a décidé de le faire remonter. Les carnavaliers de Nice sont arrivés, ils l'ont remonté, réassemblé en réserve. Le jour où il doit ressortir, le pauvre, même s'il baisse la tête, je pense qu'il ne passera pas, il sera retronçonné.
Je vois qu'il est bien ici.
Ouais, il est pas mal.
Il n'a pas envie de bouger.
Il prend un peu moins de place au sol, mais il me prend un peu plus en hauteur.
Mais
au moins, il est visible.
En tout cas, c'est un monde merveilleux et merci de nous l'avoir fait découvrir.
Avec
merci
plaisir.
Beaucoup,
avec plaisir.
Adaillac dans ses immenses réserves, compteur infatigable. Et maintenant, nous arrivons dans un endroit beaucoup plus feutré, qui est le bureau de Haute-Fanlot. Aude Fanlot est responsable du département recherche et enseignement au sein du MICEM. Bonjour Aude.
Bonjour, enchantée.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Oh, merci de nous recevoir dans votre bureau.
Je vous en prie.
Alors, je crois que vous êtes responsable dans ce département recherche et enseignement d'un objet très spécifique qui concerne le MICEM, qui est en fait les enquêtes et les collectes. Qu'est-ce que c'est que ce mot d'enquête et de collecte?
Le principe, c'est de constituer des collections à partir de collectes d'objets que l'on va aller chercher directement auprès des gens dans la vraie vie.
Oui.
Et qui ne sont pas des objets nécessairement justement prévus pour être des objets. Mais il faut savoir aussi que ces objets sont associés ici même au Centre de conservation et de ressources à une quantité énorme de témoignages qu'on a enregistrés ou filmés, de documentation qu'on a pris sur le sujet en menant ces enquêtes, etc.
Alors pour être très concret, par exemple, la dernière collecte importante ou celle qui vous occupe en ce moment?
Alors, la dernière collecte importante, en ce moment, on a une enquête collecte qui nous permet de travailler un projet d'exposition qui va s'appeler Revenir et qui sont sur les formes du retour chez soi lorsque on est issu des migrations ou lorsque l'on est, disons, en diaspora. Et donc, ça va être comment est-ce que, par exemple, on retourne au bled, des formes de retour mémoriel ou bien des formes de voyage touristique. Et donc, on a documenté ces formes de retour avec des cas très différent dans l'ensemble du bassin méditerranéen.
Donc le MUCEM en fait est une espèce de membrane sensible qui résonne en permanence avec les grands événements qui agitent nos sociétés, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et en fait, si on revient peut-être à l'histoire du musée, vous avez certainement vu le bureau de l'Aubrac que Hervé était en train de remonter à échelle 1.
Oui.
Vous avez peut-être vu aussi une tête de train graffée qui vient de nous parvenir. On est là dans des objets, encore une fois, qui n'étaient pas prévus pour des musées par définition. Ils sont prévus pour la vie et pour être utilisés. Et ces objets, on est allé les chercher donc à partir d'une démarche d'enquête ethnographique. C'est une manière de faire rentrer les transformations sociales aujourd'hui en patrimoine et de les inscrire dans un temps long. C'est l'objectif, la colonne vertébrale, disons, de ce qu'on appelle les musées de société auxquels on appartient.
Et vous, qu'est-ce que vous trouvez le plus compliqué, justement, dans cet exercice-là? Quelles sont les contraintes les plus importantes? Est-ce que c'est l'abondance? Quelle est la plus grande contrainte à laquelle vous êtes vous-même exposé chaque jour dans votre métier?
Alors, l'abondance, oui, ça c'est déjà... vous avez peut-être vu aussi, par exemple, la collecte Skate, où on a une collecte de référence qui est extraordinaire, mais c'est vrai que c'est assez pléthorique. Mais je vais vous donner un exemple d'une collecte qui, finalement, a permis de rapporter très peu d'objets et d'en dire beaucoup de choses. C'est l'exemple de la tenue Décathlon et des bottes que vous avez peut-être vu dans nos réserves. Et donc, c'est une tenue de ski, en fait, complète, qui a été rapportée d'une enquête collecte qu'un chercheur, Raphaël Boutivot, chez nous, a menée pendant 2 ans pour essayer de documenter le passage des migrants de part et d'autre de la frontière italienne. Ils traversent les Alpes par un endroit qui est une station de ski en journée. Le passage clandestin se fait la nuit, et comme ils ne sont pas équipés pour traverser dans la neige, évidemment, ils en meurent, bien souvent. Et donc, il y a des circuits de solidarité qui se sont constitués autour de ce passage des Alpes. Et cette botte, et ces paires de gants et de moufles et de bonnets, et cet anorak Décathlon, sont donnés par une association d'un côté de la frontière italienne aux migrants pour qu'ils puissent passer, et sont récupérés une fois le passage effectué. Et donc, on a travaillé pendant 2 ans, enfin Raphaël, le chercheur qui a travaillé au département recherche, a travaillé pendant 2 ans sur ces circulations. Et ça répond à plusieurs de vos questions, c'est-à-dire que vous avez un seul objet ou très peu d'objets, mais avec tout un travail d'enquête, de témoignages, de documentation de première main qui est associé à cet objet et qui raconte ces trajectoires de passage. Donc, par un seul objet, on va rentrer sur une question de très vaste échelle, de circulation à l'échelle de l'Europe et de la Méditerranée, à partir d'un objet qui circule lui-même de part et d'autre de la frontière. Et dernier point aussi sur cet exemple-là, justement, c'est aussi une manière de réactualiser les collections des arts et traditions populaires, au sens où nous avons énormément dans nos collections historiques d'objets qui racontent ces manières de passer la frontière. celle des bergers, de la transhumance, celle du tourisme, et que évidemment là on apporte un nouvel éclairage, un nouveau discours sur des questions de société contemporaine, extrêmement importante, à partir justement de cette filiation que l'on crée avec les collections historiques.
Alors je crois que le musée a une institution très particulière qui est un labo de recherche. Alors comment c'est connecté à ces enquêtes collectes justement ?
Alors oui, au MUCEM, on a le MUCEM Lab qui s'efforce justement de fonctionner comme un labo de recherche. Au Musée des Arts et Traditions Populaires, on avait vraiment une formule qui était celle du musée laboratoire. C'est un centre de recherche CNRS dont le musée était la vitrine, enfin montrer les résultats justement des programmes de recherche. Maintenant, le département en recherche s'occupe justement de poursuivre ses collaborations avec des chercheurs qui vont partir sur le terrain pour documenter les phénomènes de société qu'on a évoqués. Et donc, on a des chercheurs qui viennent sur des contrats de recherche de 1 an, 2 ans, 3 ans pour développer ces programmes de recherche. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est une difficulté aussi, une difficulté et un défi passionnant, c'est que contrairement au Musée des Arts et Traditions Populaires, qui était plutôt centré sur la France, oui, nous maintenant on travaille à une échelle euro-méditerranéenne avec une étendue extrêmement grande. Et donc ça va nous permettre aussi d'organiser des programmes avec différents chercheurs qui sont spécialistes de différents pays et qui vont retourner sur leur terrain qu'ils connaissent très bien auprès des gens avec leur casquette de chercheur, mais pour collecter.
Aude, merci beaucoup de cette conversation chaleureuse et pleine d'enseignements. Voilà. Et on vous souhaite pour le futur de continuer à collecter des merveilles comme vous le faites.
Merci beaucoup.
Maintenant, nous sommes avec Hubert Braun, qui est régisseur des œuvres. C'est bien ça, Hubert ?
C'est ça.
Donc, vous avez charge d'âme, puisque je crois qu'il y a 1 million d'œuvres dans la collection, c'est ça ?
C'est ça, 1 million d'œuvres dans la collection à ce jour.
Oui.
Et une collection qui est toujours en expansion.
Donc, vous êtes quelqu'un de très chargé au point de vue travail,
c'est
j'imagine.
Ça. Mais je ne suis pas tout seul, heureusement.
Ah, vous n'êtes pas tout seul.
Heureusement, je ne suis pas tout seul.
Alors, tout le monde m'en parle de cette exposition populaire. Je n'en sais rien pour l'instant.
Alors, c'est une exposition semi-permanente qui aura lieu au MUCEM à partir du 12 décembre et qui propose de rassembler dans une forme de parcours thématique, mais également par rapport aux matériaux, une sélection des plus beaux objets, ou en tout cas de très beaux objets du MUCEM, avec par exemple une section dédiée au métal, une section dédiée au verre, une section dédiée à la mode, une section dédiée à la peinture,
d'accord,
par exemple. Mais il y a encore 5 autres sections. Mais je ne vais pas toutes les citer tout de suite.
Non, il faut garder le mystère.
Exactement. Et seront présentés en tout 1200 objets dans l'exposition.
Oui. Qui sont les objets les plus emblématiques,
c'est
en
ça,
fait, de la collection.
C'est ça.
Ouais. Et donc, dans l'atelier, là, le travail des personnes qui sont là, je vois quelqu'un qui est en train de travailler sur une œuvre, c'est de remettre en état, en fait, ces œuvres pour leur exposition, c'est ça ?
Voilà. Alors, régulièrement, oui, on accueille des restaurateurs. Là, les restaurateurs, pour l'exposition populaire, ils sont déjà venus intervenir il y a 3 et 4 semaines sur les objets de l'exposition. Et maintenant, on passe à la phase vraiment bien plus opérationnelle de préparation à la mise en exposition des objets.
Est-ce que vous pouvez nous décrire le lieu ? C'est un lieu quand même assez fantastique, très grand,
oui,
où il y a donc des étagères qui contiennent différents types d'objets. Alors, quel type d'objets ?
Alors, quand on entre, on a une rangée de 25 mètres linéaires d'étagères sur lesquelles sont stockés des objets en vue de différentes étapes dans la vie de l'objet. Par exemple, il y a des objets qui sont en attente de marquage, sur lesquels mes collègues vont apposer le numéro d'inventaire, des objets en attente de restauration, mais pour des futurs projets. Et principalement, ce qui nous intéresse, c'est toutes les étagères que j'occupe avec les objets pour l'exposition populaire. Donc hier, j'ai commencé à descendre dans l'atelier, les objets de la section céramique, parce que là, les socleurs ont quasiment terminé les soclages pour la section sculpture, et donc ils vont attaquer les soclages de la section céramique, dans laquelle il y a une bonne centaine d'objets.
Bon, Hubert, merci de nous avoir fait pénétrer dans votre antre, qui est un peu secrète. Hein. Je sais que personne n'y pénètre.
Je vous en prie.
Voilà, et on a pu découvrir comment ça fonctionne, en fait, une exposition qui est consacrée à des objets populaires. Donc, vraiment, merci beaucoup de nous avoir permis d'entrer dans ce lieu et de partager un peu les secrets de fabrication.
Merci à vous, François, et je vous propose qu'on aille rejoindre Lucille pour la suite.
Eh ben, c'est parfait, merci. Donc on vient de quitter Hubert, qu'on a laissé au chevet de son million d'œuvres, et il nous a dit qu'il fallait rencontrer quelqu'un de très important. Et nous prenons dans une autre réserve, et en effet, nous rencontrons Lucille, je crois, Lucille Blore, c'est ça ?
C'est ça, bonjour.
Bonjour Lucille. Bon alors, Lucille, vous êtes écrivaine ?
Je suis écrivaine, oui.
Oui, oui. Alors mais qu'est-ce que fait une écrivaine dans un musée des civilisations ?
Mais en fait, on a été quatre écrivaines et écrivains,
oui,
conviés par l'équipe du MUCEM dans le cadre de la future exposition populaire,
oui,
avec un point d'interrogation.
D'accord.
Tous les quatre, nous avons très librement, c'était vraiment le bonheur de cet exercice, eu à écrire des cartels, ouais, des cartels sensibles.
Oui.
L'intention, je pense que c'était de proposer quatre regards, qui soient des regards singuliers et puis peut-être un peu décalés, mmh, sur des objets qui d'habitude ne sont accompagnés que de commentaires scientifiques ou ethnographiques,
ouais,
techniques,
ouais,
voilà. Donc pouvoir proposer d'autres mots, peut-être plus inattendus, plus intimes.
Faisant travailler peut-être l'imaginaire d'une autre,
ouais,
façon,
ouais,
c'est ça, et donnant à voir et à comprendre l'œuvre d'une autre manière.
Tout à fait. En, oui, tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire.
D'accord. Alors, justement, cette œuvre, on peut dire, c'est presque un personnage, hein, en face de nous. Comment elle se présente ? Et deuxième question, comment vous l'avez accueillie ?
Alors, c'est un gros coffre.
En bois ?
En bois,
oui. Ouais,
qui vient du Kera, qui date du XVIIIe siècle.
Kera.
Le Kera, vous savez, c'est dans les Alpes du Sud. Et du coup, c'est un objet à la fois très familier, parce que le coffre, ça renvoie à l'enfance, ça, mmh, renvoie à un mobilier populaire,
oui,
quoi. Et puis, qui est très beau, parce qu'en fait, il est gravé. Alors, c'est une tradition, là-bas, avec des motifs, des étoiles, des poinçons, des cœurs. Ce qui est très touchant pour moi,
oui,
c'est qu'il est en quelque sorte signé, puisque on peut lire dessus « Fait ce 7 janvier, oui, 1734, fait par moi, j'ai deux points. » Et là, mon avis diffère du cartel. Moi, je vois « E-M-E ».
Oui.
Et l'auteur du cartel scientifique, lui, lit « F-M-E ».
D'accord.
Mais je garde mon « E » parce,
bon,
que…
Gardez votre « E ».
Oui.
Gardez votre
« E ». J'ai tous les droits. Ça a été vraiment un objet important pour moi parce que c'était le premier du lot. Et c'est celui, en fait, dans l'exposition par lequel va s'ouvrir le parcours des objets, mm-hmm, que j'ai eu, j'allais dire à rencontrer, mais disons à traiter. Et du coup, voilà, c'était un objet important puisque la consigne d'écriture était quand même compliquée. Donc j'ai passé un peu de temps à me demander comment j'allais appréhender cet objet, et je savais que la manière que je trouverais conditionnerait en fait le reste du parcours.
Alors, comment on fait pour faire parler un objet sans paraphraser en fait le cartel technique ?
Alors là, il se trouve que cet objet parlait, puisqu'il y a des mots dessus,
oui,
ce qu'on vient de lire.
Oui.
Du coup, je suis vraiment partie de l'idée que cet objet, c'était en quelque sorte un memento mori, c'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait eu quelqu'un là, et que ce quelqu'un donc avait laissé ses inscriptions. Du coup, je me suis dit que la présence des objets était une présence qui était à la fois très paradoxale et finalement très intime, parce qu'ils ont une façon d'être qui nous renvoie, qui est l'indice de l'homme ou de la femme qui les a fabriqués, utilisés, aimés, manipulés. Je me suis dit qu'en fait, l'intime, c'était le bon endroit pour parler de ces objets. Parce qu'effectivement, c'est un endroit que traverse l'universel. Et puis aussi parce que j'allais pouvoir être sincère. puisque ce parcours pour appréhender l'objet, que ce soit par les sens, la vue bien sûr, mais les autres sens aussi, l'émotion, l'imaginaire, le souvenir, c'est un parcours que chaque visiteur va pouvoir faire en fait. Donc cette expérience que je faisais moi en tant qu'autrice, invitée à parler de cet objet, bah, c'est celle que chaque visiteur peut faire aussi. Ça autorise chaque personne en fait à porter son regard à lui et éventuellement à mettre ses mots sur ses objets.
Et est-ce que vous pouvez nous lire le cartel que vous avez imaginé ?
Avec plaisir, puis je pourrais vous en dire deux mots.
Oui, s'il vous plaît. Même plus que deux mots.
On imagine un amour simple. Tu as volé mon cœur, je serai ton étoile. Un amour neuf, vieux de 3 siècles. Le coffre parle d'outre-tombe. Quelqu'un ici dit « J'aime. J'ai aimé. J'ai aimé. Ce pourrait être moi. »
On a un petit peu silence d'émotion. C'est vrai ? C'est vrai, c'est très beau. Lucine, merci beaucoup de cet entretien. Ce qui est très sensible, touchant, c'est cette idée, au fond, que le musée a pu mettre en regard un texte poétique avec une œuvre. Merci beaucoup, Lucille, de cette rencontre.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter le podcast « Chefs-d'œuvre en réserve ». Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous. Chefs-d'œuvre en réserve est une création originale, l'Acmé Productions, d'après une idée originale de François Giannesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Le Bolloc-Salama. Production et éditorialisation, Marie-Laurence Chéry. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Dokuto et Ismaël Kamara. Enfin mixage, Ben Auriel. À bientôt.